Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 22 janvier 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran, la Russie et la Chine ont lancé l'exercice militaire conjoint intitulé « Ceinture de sécurité maritime 2022 » dans le nord de l'océan Indien, avec des navires des trois pays frappant des cibles prédéterminées en mer. L'aviation de la coalition d'agression a bombardé vendredi Alep, une prison à Sada, faisant plus de 77 morts et 112 blessés. Ansar Allah conseille aux compagnies et sociétés étrangères de quitter les Émirats arabes unis. Et le gouvernement du Niger et la Confédération suisse ont signé un accord portant sur le mécanisme du fonds commun du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran, la Russie et la Chine ont lancé l'exercice militaire conjoint intitulé « Ceinture de sécurité maritime 2022 » dans le nord de l'océan Indien avec des navires des trois pays frappant des cibles prédéterminées en mer. L'exercice est terminé par un défilé naval d'unités participantes devant le destroyer iranien Dena dans le nord de l'océan Indien, a dit le porte-parole de l'exercice naval trilatéral, le contre-amiral Mostafa Tajedini, soulignant que la présence de la République islamique d'Iran dans les eaux internationales indique une position et un statut élevé du pays sur la scène internationale. Le contre-amiral Tajedini a déclaré que le rétablissement de la sécurité régionale et internationale est très important pour l'Iran et que pour cette raison, la marine du pays ne permettra jamais la concrétisation d'une quelconque menace dans le secteur maritime. À ce stade de l'exercice, des unités de navires d'Iran, de Chine et de Russie, sous le commandement du destroyer iranien Jamaran, ont tiré des armes de calibre 20 mm sur des cibles de surface prédéterminées en mer, plus précisément dans le nord de l'océan Indien, a déclaré le contre-amiral Tajedini. De plus, à l'étape suivante, l'exercice PhotoEx, y compris la formulation et l'arrangement offensif des unités participant à l'exercice, a été menée conformément aux menaces dans la région, a-t-il ajouté. L'amiral Habibullah Sayari, coordinateur adjoint de l'armée, a déclaré « L'importance de l'exercice combiné de ceinture de sécurité maritime 2022 réside dans la mise en œuvre de divers buts, y compris l'établissement de la sécurité du commerce maritime dans le nord de l'océan Indien, la coordination plus étroite entre les marines des pays régionaux et transrégionaux et l'échange d'expériences maritimes en matière de secours en cas d'accident maritime. La tenue de cet exercice organisé et commandé par l'Iran montre que les forces de l'armée du CGRI ont atteint une très bonne capacité visant à renforcer et maintenir la sécurité dans le nord de l'océan Indien et la mer d'Oman, a annoncé l'amiral Habibullah Sayari rappelant. L'exercice combiné de la ceinture de sécurité maritime 2022, qui est mise en œuvre pour la troisième fois, est un signe du développement de la profondeur stratégique et de la promotion de la position internationale de la République islamique d'Iran en diverses zones maritimes. Ansar Allah conseille aux compagnies et sociétés étrangères de quitter les Émirats arabes unis. Via un communiqué, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a déclaré que les Émirats arabes unis resteraient instables tant que les dirigeants émiratis poursuivraient leur agression militaire contre le Yémen. Il est donc préférable que les investisseurs étrangers quittent les Émirats, a-t-il fait savoir. Après les crimes abominables que l'aviation de la coalition saoudo-américano-émiratie ont commis contre la nation yéménite, nous recommandons aux sociétés étrangères de quitter les Émirats arabes unis. Vendredi 21 janvier à l'OP, l'aviation de la coalition d'agression a bombardé une prison à Sada, faisant plus de 77 morts et 112 blessés. Les provinces de Sana'a, Hudaïda et Sada sont presque quotidiennement bombardées par les avions saoudiens. Sur le terrain, les mercenaires à la solde des Émirats arabes unis ont lancé de nouvelles attaques, espérant pouvoir réoccuper les régions du sud-ouest de la province de Chabwa et ont été récemment libérés par Ansar Allah. À présent, 80% de la superficie d'Ain, 80% de Bayhan, 10% de Marka Soufla et 35% de Marka Oliya, toutes appartenant à la province de Chabwa, sont sous le contrôle des combattants yéménites. Des affrontements sont en cours à l'est de Raip et les combattants yéménites essayent de repousser les mercenaires pro-émiratis vers la province de Chabwa. Des dizaines de mercenaires ont été tués lors des affrontements. Depuis le début de la nouvelle vague d'agression, la coalition saoudo-émiratie a perdu 725 forces, 520 morts et 205 disparus, ainsi que 110 véhicules militaires détruits. Un certain nombre de terroristes du réseau Daesh ont échappé de la prison fondée au lycée industriel contrôlé par les FTS et les forces d'occupation américaines à Hasaka. Le correspondant de Sana'a indique que les violents accrochages s'étaient poursuivis du jeudi soir jusqu'à vendredi matin dans les environs de la prison du lycée industriel après une attaque avec deux voitures piégées menées par les terroristes Daesh à proximité de la prison. Selon des sources locales, le correspondant fait noter que les accrochages se poursuivent à l'intérieur de la prison, près de sa périphérie, aux alentours du nord point d'Al-Bassal et sur l'autoroute principale. Le correspondant de Sana'a a indiqué plus tard que les terroristes Daesh, s'échappant de la prison, s'étaient abrités dans un certain nombre de bâtiments voisins. Les accrochages ont causé une coupure de l'alimentation en électricité du centre-ville de Hasaka et des quartiers périphériques. Le directeur général de la compagnie de l'électricité Hasaka a déclaré à Sana'a que les chantiers de maintenance vont commencer le processus de réparation lorsque les affrontements cesseront. Le gouvernement du Niger et la Confédération suisse ont signé vendredi 21 janvier à Niamey un accord portant sur le mécanisme du fonds commun du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement. Le document a été paraphé par le ministre d'État nigérien, ministre des Affaires étrangères et de coopération, M. Masoudo Hassoumi, et l'ambassadeur de la Confédération suisse au Niger, avec résidence à Abuja, M. Georg Steiner. Cet accord a pour objectif général d'assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour toute la population du Niger en assurant un accès universel et équitable à l'eau potable et un coût abordable à l'horizon 2030. Monsieur Massaoudou a précisé qu'il s'agit d'un programme très important pour le Niger en ce qu'il cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance Acte 3, avec comme cible l'accès à l'eau potable pour tous. Pour sa part, l'ambassadeur de la Confédération suisse au Niger a rappelé que cette contribution supplémentaire au mécanisme du fonds commun de 4 millions CHF pour la durée 2022-2023 est un bon mécanisme qui canalise les contributions des PTF pour appuyer l'implémentation du cadre national sur l'eau et l'assainissement, programme eau, hygiène et assainissement pour la période 2016-2030. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël est en voie de décomposition. Selon un ancien responsable militaire israélien, les divisions internes constituent une menace plus importante pour Israël que ses ennemis étrangers que sont l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne considérait l'érosion de l'unité interne de la société israélienne comme un danger plus grand que celui posé par l'Iran, le mouvement Hamas ou le Hezbollah. Dans une interview accordée au journal israélien Maariv, dont des extraits ont été publiés dans son numéro du jeudi 20 janvier, Ezekot, qui est actuellement chercheur principal au Centre de recherche sur la sécurité nationale israélien, a déclaré « Je pense que les divisions dans la société israélienne et les attaques des deux côtés, le déclin de la gouvernance, le déclin de la confiance dans les institutions, dans les tribunaux, le crime, tout cela, ce sont les plus grandes menaces pour l'avenir d'Israël. » Elle l'emporte sur la menace posée par l'Iran, le Hamas ou le Hezbollah. Ezekot, qui a dirigé l'armée de 2015 à 2018, a reconnu que l'affaiblissement de la cohésion interne avait mis en péril la résilience dans la société israélienne. Il a évoqué l'affaire Ilor Azaria, qui a tué en martyr le Palestinien Abdel Fattah al-Sharif al-Khalil en mars 2016. Cela était une décision décevante, a-t-il insisté. Les gens sont inquiets, non pas à cause de la menace iranienne, mais à cause de la faiblesse interne, de la corruption, de la perte de cohésion, des inégalités, des frictions entre les différents groupes de citoyens. Des pans entiers de notre public ne sont pas absorbés par la société, a-t-il dit ajoutant, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de sécurité sans solidarité sociale et qu'il n'y a pas de solidarité sociale sans sécurité. Il a ensuite souligné la baisse de l'adhésion aux forces israéliennes au cours des dernières décennies comme un indicateur de l'effondrement. Selon ses dires, lorsqu'il a rejoint l'armée en 1978, 88% de toutes les personnes éligibles avaient fait comme lui, alors qu'en 2015, lorsqu'il est arrivé le tour de son fils, ce chiffre serait tombé à 67%. Il a également avoué la tendance à valoriser davantage le service dans les cyberunités que dans les unités de combat de première ligne. La disposition à la guerre ne cesse de s'effriter, avertit Ezekot. En ce qui concerne les Palestiniens, il s'est exprimé en ces termes. Le président de l'autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas, âgé de 86 ans, approchait de la fin de son mandat. Et il a proposé de mettre en place un plan de transition pluriannuel pour améliorer les liens avec les Palestiniens. Le plan commencerait à construire un pont pour réduire l'hostilité et renforcer la confiance. Ezekot a proposé un effort conjoint entre Israël, les Palestiniens, l'Égypte, la Jordanie, les États-Unis et les pays du bassin du Golfe Persique. Nous devons changer la réalité de la situation, car cela conduira à un État unique qui détruira le rêve sioniste, a-t-il ajouté. Ce n'est pas la première fois que des responsables militaires et de sécurité israéliens se sont dit vivement inquiets de l'avenir du régime sioniste et de sa situation interne fragile. Un ancien haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré qu'Israël ne serait pas en mesure de survivre pour une prochaine génération. Yuval Diskin, l'ancien chef du Shin Bet, service de police interne, a confirmé dans son article paru dans le journal Yediot Aharonot qu'il existe une question existentielle stratégique qui a mis en évidence l'étendue de sa gravité. Diskin a ajouté qu'il parlait de tendances démographiques, sociales et économiques qui changent déjà l'essence d'Israël et peuvent mettre en danger son existence d'ici une génération. La guerre de 11 jours à Gaza et le soulèvement sans précédent des Palestiniens vivant dans les territoires occupés en 1948 ont également fait peur aux responsables sionistes. Le premier ministre de l'époque, Benjamin Netanyahou, et de nombreux responsables israéliens ont déclaré explicitement que le soulèvement est bien plus dangereux que les missiles du Hamas, dans la mesure où il pourrait conduire à l'effondrement du régime.
à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder cette visite en Russie du président iranien Ebrahim Raïsi. Ebrahim Raïsi qui a effectué une visite officielle de 2 jours en Russie, à Moscou. Il a eu des réunions très importantes avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux présidents se sont entretenus de divers sujets, des relations bilatérales, des questions d'intérêt et communs, des dossiers de régionaux et internationaux. Le président iranien Ebrahim Raïsi a eu également un discours devant la Douma russe, chambre basse du Parlement de la Fédération de Russie, et devant lors de son intervention devant la Douma, le président Raïsi a plaidé pour le renforcement des relations entre la Russie et l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission M. Bernard Cornu, un analyste politique et spécialiste des questions internationales. M. Cornu, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous depuis Paris.
Depuis Paris, merci beaucoup pour cette précision. Monsieur Cornu est avec moi pour cette émission depuis Paris. Et Monsieur Cornu, on va partir tout de suite à Bruxelles pour rejoindre un des géopoliticiens belges spécialisé des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour à Bernard Cornu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Luc Michel, comme première question, quelle analyse portez-vous sur cette visite de 2 jours du président iranien en Russie, son entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine et son intervention devant la Douma russe, s'il vous plaît?
Mais les conditions dans lesquelles elle se déroule, en particulier les applaudissements nourris de la Douma lors du discours du président iranien, ça montre que l'axe stratégique Moscou-Téhéran, aujourd'hui, c'est une réalité concrète. Et le discours du président iranien est important parce que cet axe, justement, a pour cible l'hégémonisme américano-occidental. C'est important. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle géopolitique. L'époque de la toute-puissance occidentale est terminée. L'Eurasie est en marche. Et aujourd'hui, vous savez que je vais fêter l'année prochaine mes 50 années de vie engagée. J'ai vu beaucoup de défaites. J'ai vu disparaître l'Union soviétique. J'ai vu disparaître la Yougoslavie. J'ai vu disparaître l'Allemagne de l'Est. J'ai vu disparaître la Jamaïque libyenne. Aujourd'hui, au contraire, je sais que la victoire est de nouveau possible.
Bernard Cornu, quelle analyse vous portez-vous en fait sur cette visite officielle de 2 jours du président Raïsi en Russie, s'il vous plaît?
Ben, ça s'est bien passé. Et c'est assez étonnant, c'est qu'on a très peu parlé dans les médias français, très occupés surtout par l'affaire de l'Ukraine, par des discussions pour le début de la présidence française de l'Union européenne. Mais il y a eu très peu de commentaires sur cette rencontre, alors que c'est très important pour la paix au Moyen-Orient, pour trouver une solution au conflit en Syrie et aussi pour relancer l'affaire d'un gazoduc entre le Golfe, où il y a les plus grands gisements au monde, enfin de 2 pays qui ont des grandes capacités, le 2e et le 3e dans le monde après la Russie, pour amener ce gaz jusqu'à la Méditerranée, puis ensuite l'Europe. Et ceci effectivement pour ménager la concurrence avec la Russie, il faut qu'en fait que ce projet soit disons concerté avec la Russie, l'Iran, la Syrie, l'Irak. Voilà, donc je pense que ce sujet j'espère a été abordé, il est essentiel, il est aussi essentiel pour réussir la transition énergétique en Europe parce que pour remplacer le charbon, nous avons déjà besoin du gaz. Voilà. Et ceci a été acté récemment par la Commission de l'Union européenne.
Luc Michel, comme l'a dit Bernard Cornu, en fait, les deux présidents ont parlé de divers sujets, politique, économie, sécurité, coopération et militaire. Et en fait, lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, le président Raïssi l'a souligné, et il n'y a aucune limite pour le développement des relations avec la Russie. Et le président Raïssi l'a dit également, toujours lors de cette réunion, que ces sanctions américaines ne peuvent pas constituer un obstacle à la coopération Moscou-Téhéran. Comme vous l'avez dit, Luc Michel, la victoire est de mise, en fait, de l'Iran et la Russie, à côté de la Chine et d'autres pays, qui veulent en fait donner naissance à un monde multipolaire contre l'unilatéralisme américain, Luc Michel, n'est-ce pas?
Oui, c'est important. Il faut surtout retenir les aspects économiques. Il y a tout d'abord cette unité, ce qu'on appelle l'OPEP du gaz, avec également le Venezuela, avec l'Algérie, avec la Guinée équatoriale en Afrique. Ces États producteurs de gaz et d'hydrocarbures qui veulent reprendre le contrôle du marché des hydrocarbures dont les Américains se sont emparés à partir de septembre 2015. C'est très important, comme M. Cornu l'a précisé, parce que c'est un des éléments qui vont contribuer à arracher les mains, l'Europe occidentale des mains américaines pour la tourner vers l'Eurasie, ce qui est son domaine d'expansion naturelle. Le gaz d'Iran, le gaz de Russie, etc., c'est ce qui va permettre demain d'assurer l'indépendance énergétique de l'Europe. Il y a également le fait que tous ces aspects liés au domaine énergétique et au domaine des sanctions également vont avancer vers la dédollarisation. Les institutions financières imposées par les États-Unis en 1945, lors de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, elles ont terminé leur vie. Elles sont inefficaces, elles sont pénalisantes. Elles sont dramatiques pour le peuple. Aujourd'hui, les peuples de l'Eurasie en marche pour mettre un terme. Et la politique des sanctions, pas seulement l'Europe, la Russie est également pénalisée. On n'arrête pas les États-Unis et l'OTAN de parler de sanctions. On propose actuellement du dossier de l'Ukraine. On voit également des sanctions en Afrique, au Mali, par exemple. Eh bien, toutes ces sanctions sont contre-productives parce qu'elles démontrent que l'économie globalisée occidentale est une punition pour les peuples et qu'il faut en
Bernard Cornu, s'agissant toujours en fait de cette question importante énergétique à laquelle vous, Luc Michel, en fait venez de faire allusion lors de cette rencontre entre deux présidents iraniens et russes respectivement, Ebrahim Raisi et Vladimir Poutine. Il y avait question, si vous voulez, de parler de ce projet important, ce projet phare du président russe Vladimir Poutine, ce projet d'Eurasie. Et le président Raïssi a dit que voilà, les deux pays peuvent travailler ensemble sur ce projet pour en fait accélérer le processus de la réalisation de ce projet d'Eurasie et également travailler ensemble dans le domaine d'autres organisations régionales, très particulièrement l'Organisation de coopération et de Shanghai. C'est pourquoi en fait lors de cette rencontre, Luc Michel, il a été décidé également d'activer ce corridor de coopération nord-sud, Luc Michel. Ça aussi, c'est d'une importance primordiale, n'est-ce pas?
C'est important, et parce que ça relie notamment des États qui sont victimes de l'impérialisme occidental, puisque vous savez qu'il y a déjà un corridor actuellement qui est un corridor Caracas-Téhéran-Dakar en Afrique. Et maintenant, évidemment, il faut que le second corridor qui va relier l'Iran au Proche-Orient en passant par la Syrie est très important. Comme on le voit justement, les aspects économiques qui sont justement, qui étaient le domaine hégémonique des Occidentaux, est en train de se développer. Mais ce qu'il faut souligner, c'est l'étroitesse de vue entre Moscou et Téhéran. Vous savez que au départ, Moscou et Téhéran avaient de mauvaises relations à la fin de la guerre froide. Oui, il y a eu une alliance opportuniste à propos de la guerre de Syrie. C'était une alliance qui était l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Tous les deux étaient les amis de Damas, mais ça se limitait à ça. Mais 6 ans de lutte commune en Syrie, 10 ans de lutte commune également dans plusieurs dossiers africains et méditerranéens, font qu'aujourd'hui, entre Moscou et Téhéran, c'est une alliance stratégique étroite aujourd'hui. C'est ça qui est en train de tout changer. Il y a la même chose d'ailleurs en direction de la Chine, puisque vous savez, une des choses qui ont fait que la guerre froide a été perdue par l'Union soviétique, c'est qu'à partir de 1972, la Chine communiste était l'alliée des États-Unis. C'était la visite de Kissinger, de Nixon à Pékin. Aujourd'hui, Téhéran est l'ami de Moscou, et aujourd'hui, Pékin est l'ami de Moscou. Et c'est une alliance qui ne sera pas séparée, parce que ça repose sur une alliance géopolitique fondamentale.
Bernard Cornu, en fait, vous l'avez souligné de cet aspect en fait économique, ce volet économique de cette visite de 2 jours du président Raïssi en Russie. Luc Michel également a fait allusion, si vous voulez, à ce point, de cette décision prise par en fait les deux pays de vouloir en fait activer cette coopération nord-sud. Mais Luc Bernard Cornu, en fait, les deux pays sont également conscients du fait que pour pouvoir mener à bien leur politique en matière économique, ils devront en avoir les moyens. C'est pourquoi ils ont décidé également de renforcer leur coopération militaire, Bernard Cornu.
Bien sûr, dans ce monde d'opposition et de concurrence d'intérêts stratégiques et économiques, pour pouvoir, disons, contrer l'hégémonie américaine ou occidentale qui a été clairement évoquée, qui est connue, il faut aussi avoir les moyens de défense. Et donc, chaque pays a des programmes avec des budgets relativement importants, relativement dans chaque pays, mais qui sont en fait très faibles par rapport au budget américain de la défense, qui dépasse les 500 ou 600 milliards de dollars. Et donc, avec en fait un déficit budgétaire aussi, ceci est fait sur l'abus de position du dollar. Mon collègue Luc Michel a aussi évoqué d'ailleurs la nécessité de commercer, de faire des échanges financiers et économiques dans d'autres monnaies que le dollar, ce qu'on a appelé la dédollarisation. Il est important aussi d'affaiblir le dollar, d'affaiblir la confiance dans le dollar par l'usage d'autres monnaies pour cette coopération économique, cette coopération militaire. Ceci est une évidence, mais on n'en parle pas beaucoup en Occident, où on regarde seulement des aspects assez fantasmatiques sur les problèmes de religion, le problème d'ethnie, alors qu'en fait les réels problèmes sont économiques, sont stratégiques, sont des problèmes d'hégémonie ancienne des États-Unis et de l'Occident sur le Moyen-Orient, cette amitié assez forte, cette coopération entre la Russie et l'Iran, avec aussi d'autres pays du Moyen-Orient, est très importante pour changer cette répartition du pouvoir et trouver un équilibre plus juste qui aille à nouveau vers la paix, qui nous ramène la paix dans tout le Moyen-Orient et donc aussi le développement dont toutes les populations ont besoin dans cette région.
Et est-il, Bernard Cornu, dans l'intérêt de l'Europe de rejoindre, si vous voulez, cette logique soutenue, défendue par l'Iran, la Russie, la Chine et autres pays, pour aller vers une coopération, si vous voulez, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'économie, parce que, comme vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, l'enjeu essentiel du monde, c'est désormais, si vous voulez, l'économie, c'est désormais l'énergie.
Tout à fait. Je crois sincèrement que l'Europe, même si tous les pays européens ne le comprennent pas encore, a intérêt à s'associer à cette coopération avec la Russie et avec les pays du Moyen-Orient pour le pétrole et pour le gaz, pour pouvoir contrer cette hégémonie ancienne anglo-saxonne, parce que l'Angleterre était associée aux États-Unis là-dessus. Et donc, il faut une certaine concertation parce que si les prix du gaz étaient très élevés, c'est-à-dire en l'absence de production iranienne à cause des sanctions américaines et en partie européennes, le prix du gaz serait si élevé que les États-Unis pourraient être tentés d'essayer d'exporter du gaz liquéfié depuis l'Amérique, notamment du gaz de schiste. Certains pays le souhaitaient, certains pays voulaient faire des ports de réception de gaz liquéfié. Donc, et en fait, l'Europe n'a pas intérêt à ce que le prix du gaz soit trop élevé. Donc l'Europe a en fait intérêt à une certaine concertation et certaine concurrence modérée et avec l'apport d'une production du gaz iranien qui actuellement n'est très peu exportée, en tout cas vers l'Europe. Et cela nécessite effectivement une coopération sur un gazoduc qui a besoin d'être protégé comme les États-Unis, la Turquie et l'Angleterre protègent le grand gazoduc BTC qui a été fait depuis l'Azerbaïdjan jusqu'à un port du sud-est turc. Voilà, donc tous ces problèmes d'énergie nécessitent aussi une concertation sur la défense, sur la protection et des accords de coopération qui englobent, comme De Gaulle disait, de l'Atlantique à l'Oural et au-delà jusqu'à la Chine.
Et Luc Michel, cette visite en Russie du président Raïssi, cette visite de deux jours du président Raïssi, le président Raïssi a en fait regagné Téhéran après deux jours de sa visite en Russie. Et cela intervient à un moment où, aujourd'hui même, Luc Michel, l'Iran, la Russie et la Chine ont lancé un important exercice militaire maritime.
Écoutez, on n'assure pas la paix si on ne prépare pas la guerre. Sibi pacem parabellum, disaient les Romains. C'est exact. Si on veut protéger son monde de démocratie, son monde de développement, son monde économique, il faut une armée puissante. C'est ce que les Américains ont compris. Ils ont imposé leur hégémonie mondiale sur une victoire en 1990. Mais ce qui est très important, je reviens sur la question que vous avez posée à M. Cornu, parce que la question de l'Europe occidentale, elle est fondamentale. Le géopoliticien autrichien, le général Jordi Zondlausen, avait publié un livre au début des guerres de Yougoslavie et du Golfe dans les années 90. Il disait que les guerres américaines faites par les politiciens atlantistes européens étaient des guerres qui étaient menées contre les intérêts fondamentaux de leur peuple. C'est ce qu'on a compris à Moscou et à Pékin. À Moscou, on défend une vision alternative de l'Europe qu'on appelle le néo-eurasisme, qui est une vision qui est née à Bruxelles au début des années 1980. C'est ce qu'on appelle la grande Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Le but, c'est d'arracher l'Union européenne des mains des Américains. Les routes de la soie de Tsjikin, elles aboutissent aussi à Lisbonne, à Trieste, à Birmingham, à Nantes, etc. C'est le même but, c'est d'arracher l'Europe occidentale des mains américaines. Et l'un des domaines pour lequel on va réaliser cela, c'est justement d'assurer l'assurance énergétique des fonds de l'Europe, notamment avec le gaz qui vient d'Iran, qui vient de Russie, qui vient du Venezuela, et qui vient des alliés du bloc de l'Est en Afrique, d'Algérie ou encore la Guinée équatoriale.
Bernard Cornu, vous avez entendu de Luc Michel, il dit voilà le but est d'arracher l'Europe occidentale aux mains des Américains. Là, j'emploie l'expression de Luc Michel, mais comment l'Europe de l'Ouest peut-elle, d'après vous, se libérer de cette hégémonie américaine et agir indépendamment, si vous voulez, des États-Unis, comme l'a dit Luc Michel, pour défendre ses propres intérêts?
Ben, d'une part, c'est une évidence, il y a un seul continent depuis l'Atlantique jusqu'à la Chine. Il y a donc une solidarité, il y a une possibilité de développement continental par des chemins de fer, comme le prévoit déjà toute seule la Chine. Mais dans les années au début du siècle, il y avait de grands projets pour faire des chemins de fer, pour, disons, associer l'ensemble de ces pays. Et c'est la guerre européenne déclenchée en 14, dans laquelle les États-Unis sont intervenus en 1917, qui a fait éclater cette solidarité certaines connivences, certaines coopérations européennes très larges étendues jusqu'à la Russie et au-delà, dans ces années-là d'après-guerre, de la guerre et d'après-guerre. Donc en fait, il faut revenir sur cette période dans laquelle, effectivement, c'est la suite de l'entrée des Américains dans cette guerre en 1917 qu'ils sont sortis vainqueurs et qu'ils sont sortis une grande puissance parce que tous les autres pays avaient des dettes envers les États-Unis et tous les autres pays de l'Europe, l'Angleterre, étaient affaiblis. Et les Anglo-Saxons ont pris ensemble position dans le pétrole irakien et qu'ils ont contrôlé pendant très longtemps jusqu'à le pétrole aussi iranien qu'ils ont contrôlé donc jusqu'à faire un coup d'État en 1953 et aussi après à déstabiliser l'Irak après sa nationalisation. Donc il faut revenir sur cette histoire et il faut que les efforts actuels, notamment de la France, je respecte le président Macron pour ses efforts pour essayer de maintenir des liens forts avec la Russie, de montrer que la Russie doit être une nation coopérante avec l'Europe et non pas une nation fantasmatique, opposée et menaçant l'Europe. Et donc, ceci s'oppose un peu au narratif américain qui date déjà de la guerre froide et qui veut imposer à l'Europe que la Russie, enfin l'ex-Union RSS et la Russie aujourd'hui, soient en opposition avec l'Europe. Alors peut-être qu'avec le président Biden, ce langage s'est un peu modéré. Il évite de faire des critiques trop radicales de la Russie et du président Poutine. Et il admet que la fin de l'URSS a été un grand traumatisme pour la Russie et qu'effectivement, il faut aider la Russie à consolider ses relations avec les voisins sans chercher à y implanter l'OTAN. Je crois que cette idée est connue. Il faut qu'elle soit acceptée par l'Europe fondamentalement. Je pense que la France, le pouvoir actuel français, partage ces idées-là.
Luc Michel, une dernière question. La France peut jouer son rôle pour en fait...
Je ne pense pas du tout. Au contraire, Macron, c'est une prostituée des États-Unis. Il est actuellement vent debout dans les projets d'extension de l'OTAN à l'Est. Il s'apprête à déployer des troupes en Roumanie, notamment, qui est devenue une plateforme d'agression de l'OTAN contre la Russie. Je pense que l'Europe occidentale, elle doit compter sur ses militaires, elle doit compter sur ses diplomates, elle doit compter sur ses industriels. Il y a actuellement tout un courant qui est pour l'alliance économique avec la Russie. Mais les politiciens atlantistes, eux, c'est ce qu'on appelait entre 1940 et 1944 des collabos au service des nazis. Les actuels politiciens, notamment Macron et compagnie, ce sont les collabos des Américains. Il faut se débarrasser d'eux. Et malheureusement, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. C'est justement le grand problème de l'Europe occidentale. C'est que ces gens, ils sont le résultat d'une opération de domination
Merci
et d'entrisme
beaucoup.
Des États-Unis. Par exemple, en tout Giscard d'Estaing, les Américains ont lancé la French American Foundation. Actuellement, Macron est un Youplin de cette fondation, comme l'était l'ancien Premier ministre
Merci beaucoup.
Philippe, comme l'était
Comme François vous avez compris, je suis un peu plus nuancé sur l'équilibre que cherche à trouver Macron.
De ces gens-là.
Merci. Un dernier mot de Bernard Cornu, très rapidement, en quelques secondes, s'il vous plaît.
Oui, comme vous l'avez compris, je suis un peu plus nuancé sur la position de Macron, qui essaye de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire essayer quand même de dialoguer profondément avec la Russie et donc écarter un peu les positions américaines et le jeu de l'OTAN.
Merci beaucoup.
Positions, à mon avis, sont un peu plus modérées que c'est exprimé par mon collègue. Voilà.
Merci infiniment, Bernard Cornu, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Et à bientôt.
À bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le président iranien Ebrahim Raisi a estimé jeudi à Moscou que le renforcement des relations de Téhéran avec la Russie allait stimuler leurs échanges, notamment en termes économiques et de sécurité. Intervenant devant les députés de la Douma, la chambre basse russe, le président Raisi a regretté le niveau décevant des relations bilatérales actuelles et a appelé à un sérieux effort pour les accroître. Nous sommes déterminés à développer les relations dans tous les domaines, à savoir politique, économique, commercial, scientifique et culturel, a-t-il souligné. Nous estimons que le niveau de relations actuelles est insuffisant. Poutine et moi-même avons souligné lors de la réunion conjointe qui n'est pas acceptable et nous sommes déterminés à développer ces relations, a-t-il souligné sous les applaudissements des parlementaires russes. Selon lui, le renforcement des relations Iran-Russie stimulera les économies des deux nations et renforcera la sécurité régionale et international. Le président iranien a cité comme modèle la coopération entre Téhéran et Moscou sur la Syrie. Le modèle réussi de coopération entre l'Iran et la Russie en Syrie et la poursuite de la résistance du peuple et du gouvernement syrien ont garanti l'indépendance des pays et la consolidation de la sécurité régionale, a-t-il souligné. Dans cette direction, nous avons bénéficié de la coopération de la Russie avec la direction intelligente de M. Poutine. Il faut le louer. Cela peut être considéré comme un modèle efficace pour le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, a-t-il ajouté. Abordant le dossier du nucléaire en négociation à Vienne, le président Raisi a réaffirmé que Téhéran est sérieux quant à la conclusion d'un accord si les autres parties le sont également quant à la levée effective des sanctions. L'Iran a rempli ses obligations, mais les États-Unis ont violé l'accord et les Européens n'ont pas rempli les leurs en vertu du pacte, a-t-il été soutenu. Selon la fatwa du leader de la révolution islamique, la politique de l'Iran est que nous ne recherchons pas une arme nucléaire et que cette arme n'a pas de place dans notre stratégie de défense, a-t-il souligné encore. La Chine a annoncé ses premières importations du brut iranien malgré les sanctions en cours imposées par le gouvernement américain contre toutes les transactions avec Téhéran. Les données publiées par l'administration générale des douanes de la Chine ont montré l'importation de plus de 260 000 tonnes du brut iranien en décembre dernier. Les noms des entreprises qui ont transféré la dernière cargaison et le port où elle a été déchargée n'ont pas été déterminés. Il y a quelques jours, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, l'amiral Ali Shamkhani, a confirmé que l'entrée en vigueur du pacte de coopération stratégique et globale entre l'Iran et la Chine pour les 20 prochaines années en tant que deuxième plus grande économie du monde est un succès stratégique pour Téhéran. L'accord de coopération stratégique et globale entre l'Iran et la Chine a été signé par l'Iran et la Chine le 27 mars 2021 à Téhéran. Le document inclut la coopération dans tous les secteurs économiques, industriels, agricoles, touristiques, commerciaux et militaires, ainsi que dans le domaine lié à la sécurité et
au crédit. Il comprend également l'échange d'expérience en matière de formation de la main-d'œuvre, de coopération technologique et militaire pour renforcer les capacités stratégiques, ainsi que des consultations sur les questions soulevées dans les forums internationaux. Les principaux objectifs de cet accord de coopération comprennent un ensemble de points, dont, entre autres, l'importation continue du brut iranien par la Chine et l'amélioration de la position de la République islamique d'Iran grâce au développement du secteur du transport, y compris les réseaux ferroviaires, les autoroutes et les voies maritimes et aériennes. Une offensive d'envergure des daéchistes et des mercenaires des Émirats arabes unis a avorté à Chabwar au Yémen. Les forces armées yéménites ont repoussé une offensive d'envergure menée par les mercenaires daéchistes des Émirats arabes unis contre les positions des forces yéménites dans les districts de Harib et d'Ain dans la province de Chabwar. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a précisé que plus de 50 mercenaires des Émirats Arabes Unis avaient été tués ou blessés en plus de la destruction de leurs véhicules blindés. Et d'ajouter, les forces de Sanaa ont mené des attaques aux missiles contre les rassemblements des mercenaires, entraînant un grand nombre de morts et de blessés dans leur rang. Rappelons que les forces armées yéménites avaient également repoussé le 14 janvier dernier une progression des mercenaires taïfiristes des Émirats arabes unis vers les districts de Harib et Ain, leur infligeant de lourdes pertes. Le président vénézuélien dit vouloir se rendre bientôt en Syrie. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a affirmé qu'il visitera bientôt la Syrie pour célébrer avec le peuple syrien la réinstauration de la paix et la stabilité dans ce pays après l'affrontement de l'agression des terroristes. S'exprimant lors de la cérémonie de la remise de l'ordre du mérite hors classe, Francisco de Miranda, l'ambassadeur de Syrie à Caracas, Khalil Bitar, à l'occasion de la fin de ses fonctions, Maduro a souligné que cette décoration reflète l'amitié entre les deux peuples vénézuéliens et syriens. Le président Maduro a appelé au respect du droit de la Syrie à la reconstruction et à la prospérité, soulignant qu'elle est le centre des cultures. Il a proposé l'idée d'organiser une exposition économique et d'investissement à Damas pour tous les hommes d'affaires vénézuéliens et syriens résidant au Venezuela afin d'aider à la reconstruction. Pour sa part, l'ambassadeur Bitar a remercié le gouvernement vénézuélien et le président Maduro pour ce geste. La Russie ne peut plus tolérer l'invasion graduelle de l'Ukraine par l'OTAN, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans un entretien accordé à la chaîne télévisée américaine CNN. Nous assistons à une invasion graduelle du territoire de l'Ukraine par l'OTAN avec ses infrastructures et ses instructeurs, ses dépôts d'armes défensives comme offensives, a-t-il indiqué. Selon lui, ces évolutions ont poussé les relations russo-ukrainiennes vers la ligne rouge, ce qui constitue une menace pour la stabilité et la sécurité en Europe. Dans ce contexte, la Russie juge nécessaire de maintenir ses forces armées à la frontière ukrainienne par souci de précaution face à la tension croissante dans la région et l'ambiance inamicable créée, selon Peskov, par divers exercices menés par l'OTAN ainsi que par les vols de ses chasseurs et avions espions.
Nous considérons l'OTAN comme une organisation mise en place à des fins de confrontation et pas de protection. L'OTAN n'est pas une colombe de la paix, de la stabilité, de la prospérité. C'est une arme de confrontation qui s'approche de plus en plus de nos frontières, a souligné le porte-parole du Kremlin. Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait fait valoir qu'un déploiement d'armes offensives et de bases militaires américaines sur le littoral de la mer d'Azov constituerait pour Moscou une autre ligne rouge, même si l'Ukraine n'adhérait pas à l'OTAN. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.